Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu en Matthieu 21. Il y aura juste le texte qui sera projeté hein, ce matin. Donc, Matthieu 21, et on va lire les versets 1 à 6. Matthieu 21. Verset 1 à 6. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous et vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon. Détachez-les et amenez-les-moi. » Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant même, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dite à la fille de Sion, « Voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse, sur un ânon. » Le petit d'une bête de somme. Et les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. J'ai toujours trouvé cette manière de faire un peu bizarre. On va essayer de voir pourquoi. Hein? Donc, c'est vrai que c'est curieux de voir que les trois évangiles, soit Matthieu, Marc et Luc, hein, se sont souvenus de cette histoire d'une ânesse et d'un ânon. Alors que cela aurait pu être un événement absolument insignifiant. Pourquoi avoir gardé cela dans nos Bibles? En fait, Jésus monte à Jérusalem et c'est sa dernière apparition publique, hein, la fin de son ministère. Et évidemment, donc, en approchant de Bethphagée et de Béthanie, sur la colline du mont des Oliviers, c'est là qu'il décide, lui, d'envoyer deux disciples. Et que dit-il? Voyez le village qui est devant vous, eh bien, vous allez y aller. Et vous trouverez aussitôt description, une ânesse et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez avec moi. Allez au village devant vous. C'est un endroit, cet endroit qui est riche en histoire. Hein. Le mont des Oliviers, c'est là où le roi David a pleuré avec quelques disciples fidèles à la mort de son fils Absalom. Pour Zacharie, c'est là où le Messie doit apparaître. Donc, c'est dans Zacharie 14. Le mont des Oliviers, c'est là aussi où Jésus eh bien, passe ses nuits lors de la dernière semaine. Et ce qui est merveilleux, c'est que pendant le jour, il enseignait au temple et la nuit, il venait donc, au mont des Oliviers. Alors, c'était un peu plus grand que le jardin des Oliviers. Hein. C'était, voilà. Mais on voit que c'était un lieu spécial et que Jésus a voulu marquer ce lieu. Allez au village. Et qu'est-ce qu'on doit faire au village? Eh bien, vous allez voir une ânesse et un ânon et détachez-les. Donc, ces deux disciples arrivent pour y chercher une monture. Voilà. Et c'est la première fois que les évangiles mentionnent que Jésus monte un animal. On le voit toujours à pied, hein, ou invité, etc. Mais nulle part cela est mentionné. Le but de Jésus est de rentrer à Jérusalem sur un ânon qui n'a jamais été monté et de réaliser une prophétie qui avait été proclamée sur l'identité du Messie. C'est pourquoi ce détail va être important. C'est la prophétie de Zacharie 9:9. Hein. Réjouis-toi! Grandement, fille de Sion, oui, pousse des cris de joie, Jérusalem, et regarde, c'est ton roi qui vient vers toi. L'ordre de la part de Jésus, allez. Si quelqu'un vous dit quelque chose, quelle est la réponse? Le Seigneur en a besoin. Ah, c'est pas c'est pas une action miraculeuse où Dieu aurait pu dire, voilà, il va faire apparaître une ânesse et un ânon sur le chemin. Mais il y a bien l'indication de ce que l'homme doit faire. Allez. Et Jésus nous a dit d'aller. Hein? Une fois que nous sommes sauvés, eh bien, allez. à ses disciples, de toutes les nations, hein, faites des disciples. Ce n'est pas un hasard. Ils auraient pu aller ne pas trouver l'ânon et l'ânesse. Ah, Jésus s'est trompé d'adresse. Je ne sais pas ce que vous avez comme GPS, mais il y a des GPS qui nous viennent vraiment pour des touristes. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Ils nous font visiter le Beaujolais Nouveau et compagnie, alors que c'était juste à côté, n'est-ce pas? En ligne directe. Non. En fait, quelque part, il y a aussi là un miracle de savoir bien localiser, hein, les animaux, mais aussi la réponse du propriétaire. Pour Jésus, cette déclaration, en fait, est destinée au propriétaire de l'ânon. S'il vous dit, j'en ai, qu'est-ce que vous faites? Dites-leur, le Seigneur en a besoin. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un détail pour vous, mais ça montre quand même que Dieu sait tout. Jésus sait absolument tout concernant ta vie. Et ça, c'est important. Hein, tu ne peux pas dire, tu n'as pas notion de cela. Des fois, il y a des gens qui disent, parce que Dieu sait tout. Bien sûr, il sait. Est-ce qu'il sait ce que je vis? Bien sûr, il sait ce que tu vis. Alors, on peut peut-être, certains disent, alors j'avais regardé sur Internet il y a quelque temps, et certains disaient, oui, mais un ânon ou une ânesse comme ça, jamais, voilà, sur lequel jamais personne n'est monté, ça ne se monte pas facilement. Hein. Essayez vous-même. Bon, il y en a au Texas qui n'arrivent pas à monter des chevaux, hein, mais les ânes sont aussi, voilà, récalcitrants. Hein. Assurez-vous que l'âne a été bien dressé. Peut-être Jésus savait que ce propriétaire avait un ânon bien dressé, hein, ou un âne bien dressé. Il aurait pu avoir une surprise. L'ânon est là, l'âne est là, mais pour le monter, ça va être compliqué. Hein. En plus, dans quelques heures, il faut être à Jérusalem. Hein. On n'a pas le temps. Mais en vérité, ces questions-là n'intéressent pas Jésus. Non. Lui, ce qui l'intéresse, c'est si quelqu'un vous dit quelque chose. Les disciples auraient pu dire, mais il ne connaît pas la monture. Hein. Comment est-ce qu'il s'engage? Des fois, nous nous faisons des idées sur, voilà, des choses qui nous focalisent. Mais en réalité, il y a autre chose qui intéresse Dieu. En fait, Jésus indique le droit du Seigneur de faire usage de ce que l'homme possède. Dites, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur le veut pour lui. C'est indispensable, une nécessité. J'ai besoin, on connaît ce mot, hein, j'ai besoin de la voiture pour aller, pour faire. Hein, j'ai besoin de la salle de bain. Hein, ça aussi, on l'entend. Hein, mais l'affirmation, le Seigneur en a besoin, eh bien, devait impacter l'esprit du propriétaire. À l'époque, ce n'était pas rien que de laisser son ânesse et son petit, hein, aller avec quelqu'un qui vous dit « le Seigneur en a besoin ». Hein. Imaginez cette semaine, il y a quelqu'un qui sonne à votre porte « donne-moi les clés de la voiture, il y a quelqu'un qui en a besoin oui. ». J'imagine ta tête. Et alors, qui c'est, hein, n'est-ce pas, hein. Il est évident que on serait un peu récalcitrant. Il en a besoin, mais moi aussi j'en ai besoin. Je préfère les avoir sous mes yeux que de les avoir perdus. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, hein? En fait, c'est merveilleux parce que ce propriétaire inconnu, eh bien, est obéissant. Le Seigneur en a besoin. On a l'impression qu'il ne va pas discuter. Vous savez, on est des bons négociants, on discute tellement avec Dieu. Oh là là, il nous arrive ceci, on est là, et pourquoi, et ceci, et cela, mais tu es sûr, etc. Hein? Bon. La clé de notre récit, c'est le mot « le Seigneur en a besoin ». Et le mot clé, en réalité, c'est le mot « Seigneur ». Qu'est-ce que nous entendons quand ce mot est prononcé, « le Seigneur » ? Dans Jean 13, Jésus nous dit, il dit à ce type, « vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison. Pourquoi ?» Parce que je le suis. Dans Luc, il dira, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Quand je prie et que j'invoque le nom de Jésus et de Dieu, quand je dis Seigneur, ah, ça devrait avoir un impact. C'est pas seulement un mot. Dans l'Ancien Testament, le mot Seigneur voulait dire celui dont tout est issu. Le monde, visible et invisible, matériel et immatériel. Le Seigneur en a besoin. Indiquez cela au propriétaire. Le Seigneur en a besoin. Cela veut dire que l'autorité de Dieu, l'autorité de Jésus est sur ce propriétaire et sur cette ânesse et cet ânon. Jésus indique par là qu'il est le maître. Alors dans le livre du Deutéronome et Nombre, il est dit que les animaux qui devaient être sacrifiés à Dieu ne devaient pas porter de joug. Et le fait qu'un animal, que cet animal n'ait jamais été monté indique qu'il est quelque part donné en offrande à Jésus. Le Seigneur en a besoin. Oui, le Seigneur a besoin de ton cœur. Et quand tu entends sa voix, quelle est ta réponse? Le Seigneur a besoin d'être présent dans ta famille. Le Seigneur a besoin parfois de nos biens. Il en a besoin. Le Seigneur a besoin de notre temps. Le Seigneur en a besoin. Et quelle est notre réponse? J'ai décidé que non. J'ai décidé que peut-être. J'ai décidé que j'en donnerai peut-être juste une partie. En réalité, mon frère, ma sœur, cette ânesse, cet ânon, n'appartiennent pas au propriétaire. Même s'il en est propriétaire, tout ce que nous avons, en réalité, ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous les a confiés. Nous avons besoin de lui. C'était Francis Chan qui disait, c'est très curieux, Dieu n'a pas forcément besoin de nous et pourtant il nous cherche. Mais nous qui avons besoin de lui, nous ne le cherchons pas. Le Seigneur en a besoin. Si quelqu'un vous dit quelque chose, eh bien voilà le code d'accès. Le Seigneur en a besoin. Tu peux avoir toutes les cartes bancaires. Si tu mets ça dans le stock, tu n'as pas le code. Hein? Au-dessus de 50 euros, bien sûr. Hein? Bon, hein? Ça ne marche pas. Ça, c'était vraiment le code qui actionnait l'obéissance. Nous disons qu'il est Seigneur. C'est vrai. Et parfois, comment est-ce que nous vivons quand Dieu va nous dire « moi j'ai besoin de cela hein? » quand nous perdons un bien, par exemple, quand nous assistons au culte. Le Seigneur est là, non? Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, dit Jésus, moi je suis au milieu d'eux. Et c'est vrai que le lieu de culte doit rester un lieu où nous rencontrons aussi le Seigneur. Nous, nous pensons en termes de prestige, en termes de succès, tellement en d'autres termes qu'en réalité, eh bien, nous ne pensons pas, est-ce que ça plaît à Dieu ou pas? Je me souviens un jour, peut-être j'ai raconté cette histoire, hein, il y avait une sœur qui était sortie de l'église en disant au pasteur qui était là, oui, le culte ce matin, vraiment, il n'était pas au top. Hein. Et le pasteur a dit, ben, je suis désolé, pour Dieu, il était au top. Hein. Voilà, parce qu'il était fait avec cœur. Et tout à l'heure, on a chanté, on a prié, on a entendu ce qui se fait avec cœur. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est que Dieu travaille dans les coulisses. Les disciples n'avaient qu'à obéir d'un point A à un point B, dire voilà, le Seigneur en a besoin, si quelqu'un nous dit quelque chose, et revenir. Et dans ta vie, c'est la même chose. Dieu travaille dans les coulisses, même si tu ne t'en rends pas compte. Alors, la fête de Pâques approche pour les Juifs, et Jésus avait besoin de cette ânesse et de cet ânon. Alors, la fête de Pâques, c'était pour les Juifs un moment absolument extraordinaire. Hein. Tout le monde était dans l'effervescence. C'était un des trois pèlerinages où on devait y aller. Et quand ils y allaient, eh bien, ils faisaient des rencontres. Il y avait tellement de monde que Jésus, quand il avait 12 ans, ses parents l'avaient zappé. Oh là là, carton jaune. Hein. 3 jours. Hein. Et lui, il était au temple. Hein. Tout le monde donc se rendait dans l'espoir de rencontrer d'autres personnes, de faire peut-être de nouvelles connaissances, mais surtout aussi espérer la purification. Dieu va nous décharger de tous les péchés que nous avons commis. Hein, et c'est cela. Et en fait, les disciples et les gens qui étaient là regardaient la grandeur du temple. Mais ils avaient oublié ce détail. C'est que la grandeur du temple est liée à la grandeur du roi. Et ce matin, le roi était là. Avec cet ânon, avec cette ânesse. Alors, il était celui dont l'humanité a besoin. Vous rappelez dans Genèse, la promesse avec laquelle Adam et Ève quittent le jardin d'Éden. voici, je susciterai de la descendance de la femme. En général, l'Ancien Testament parle de la descendance de l'homme, pas de la femme. Ça veut dire que le Père de Jésus est très particulier. C'est le Père céleste. Et la descendance de la femme écrasera la tête du serpent qui lui mordra au talon. Aïe! Cette prophétie va se réaliser. Mais Jésus ne se faisait aucune idée. Quand il est entré à Jérusalem, il ne s'est pas laissé émouvoir par la liesse publique. Même lui-même dira, « Oh Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler, vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Je vous ai envoyé des prophètes, vous les avez rejetés, lapidés, tués. Oh Jérusalem !» Jésus aurait pu se dispenser en train de dire à Dieu, le Père, écoute, c'est pas la peine que je rentre parce que ça va mal finir cette histoire. C'est peut-être que du théâtre. Non, Jésus était clair à ce sujet. Il doit obéir aux prophéties. On nous parle de l'obéissance chrétienne, hein, mais Jésus est notre modèle. Lui aussi, il a obéi. Il a obéi jusqu'au bout. Alors, il est dit que les principaux sacrificateurs et les scribes, eh bien, à la vue de ce qu'ils entendaient, les enfants criaient « Hosanna au fils de David », étaient choqués. Oh, tu entends ce qu'ils disent ? Eh oui, c'est la réalité. C'est cela que Jésus est venu accomplir. Si quelqu'un vous dit, quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » pour la réalisation des prophéties. Oui. Le Seigneur en a besoin pour accomplir une mission qui était prévue par Jésus avec précision. La mort à la croix, l'entrée à Jérusalem, la mort à la croix, la résurrection ne sont pas des éléments dus au hasard. Dieu les a programmés et accomplis. D'un point de vue humain, la foule disait « c'est un bon candidat, lui, pour être Messie ». Voilà, et puis ils l'ont accueilli. Pourquoi pas lui ? Pour qu'il nous chasse des Romains. Mais d'un point de vue humain, bien que les pharisiens et les scribes religieux n'étaient pas d'accord avec cela. Mais d'un point de vue de Dieu, il fallait que les prophéties s'accomplissent. Alors, les disciples, nous dit la Bible, n'ont pas compris ce qui était en train d'arriver. Parfois dans ta vie, tu ne comprends pas, et c'est vrai que c'est avec du recul qu'on comprend. Ah oui, c'est vrai. C'est avec le temps qu'on se dit, ah, Dieu a ouvert telle porte, il m'a conduit sur tel chemin, il a fermé telle porte. Jean 12 nous dit, Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. 60 craintes, fille de Sion, ton roi, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Et c'est précisé, ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Hein? On est dur avec les disciples, hein? Mais vous n'avez pas compris. Hein? Et nous aussi, des fois on est là à comprendre. Hein? Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvèrent de ces choses qui étaient écrites de lui, et que pour lui, il les avait faites. Ah oui, Jésus avait accompli cela. Alors oui, il y avait une grande louange ce jour-là. Alors, tout n'est pas entre nos mains. Et ça, ça me rassure. Si les disciples avaient dû organiser l'entrée à Jérusalem, ils se seraient complètement plantés. Mon frère, ma soeur, des fois, il y a des choses dans ta tête. Rassure-toi, tout n'est pas entre tes mains. Ouais. La deuxième chose aussi, c'est que Dieu travaille dans les coulisses. Avec le fait que tous les détails sont réglés par Dieu. C'est la foi. Je fais confiance. Alors il rentra à Jérusalem et il est dit que toute la ville fut en émoi. Et l'on disait, qui est celui-ci ? Et qu'est-ce que la foule répond ? C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Moi j'ai ça sur mon CV, je suis fâché là. Hein ? Ils n'ont rien compris aussi. Elles n'ont rien compris ces foules. C'est l'entrée triomphale. Mais l'entrée triomphale de quoi ? De la mort à la croix. Parce que ce qui attendait Jésus, c'était la croix. La croix, le lieu où le Seigneur, Dieu incarné, Dieu fait homme, va donner sa vie. Oui, il va donner sa vie. Le pont afin que juifs et non-juifs puissent être réconciliés avec le Père. La croix, c'est le lieu où Dieu a fait la paix avec les hommes. Et vous savez, c'est une paix qui a coûté. Qui a coûté. Jésus est devenu l'agneau de Dieu pour les brebis perdues. Le Seigneur en a besoin. Je pense que si les disciples avaient compris tout ce que cela voulait dire, ils auraient vraiment pressé le pas. vite, vite. Oui, la croix qui est une folie pour les hommes est une puissance aux yeux de Dieu. En réalité, c'est nous qui devrions dire au Seigneur, « Ah Seigneur, c'est moi qui ai besoin. C'est moi qui ai besoin de toi. » Alors Jésus entra à Jérusalem. Et la première des choses qu'il fit après cette entrée triomphale, qu'est-ce qu'il fait ? Il nettoie le temple. Il chasse les vendeurs. Il est vraiment dans la purification de ce temple. Pourquoi ? En disant, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Mon frère, ma sœur, quand nous avons dit à Jésus, oui, j'ai besoin de toi, la première des choses qu'il a faites dans nos vies, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait de l'ordre. Il a chassé des choses qui n'étaient pas prêtes. Qu'est-ce que Dieu a fait dans Genèse 1 ? Il a mis de l'ordre. Il a séparé la lumière des ténèbres, les eaux du bas avec les eaux du haut, la nuit, le jour, les choses célestes, la terre, etc., etc. Il a fait de l'ordre parce que c'était le chaos. Le Seigneur a besoin de mettre de l'ordre. Oui, il est celui dont le psalmiste a dit, il est le roi de la terre. Chantez à lui un cantique nouveau. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir ? Tout à l'heure, Camille nous a parlé du prophète Élie, hein, qui avait une situation très difficile. Hein. Peut-être que toi, tu es venu ce matin, je ne sais pas avec quelle préoccupation, quel souci, quel fardeau. Hein. Mais je pourrais dire une chose, peut-être que tu as besoin de repos, peut-être que tu as besoin de reprendre confiance. Peut-être que tu as besoin d'écoute. Peut-être juste le murmure de Dieu va te suffire. En tout cas, si tu as besoin de cela, peut-être Dieu te dit aussi, moi aussi j'ai besoin. J'ai besoin de retrouver cette intimité avec toi. Mon frère, ma sœur, nous sommes des fois tellement préoccupés dans nos activités, tellement occupés, que la première des choses que nous faisons, nous courons dans tout ce que nous avons à faire. Peut-être que Dieu te dit seulement, j'ai besoin juste de prendre un temps avec toi. Peut-être que tu as besoin de revoir tes priorités. Il y a nos objectifs. Et le plus important, c'est certainement les objectifs de Dieu. Peut-être que Dieu a besoin de voir de la réjouissance dans ton cœur. Est-ce que tu t'es réjoui cette semaine ? Est-ce que quand le matin, tu t'es levé avec tous tes fardeaux, tu t'es dit, je vais chercher des sujets de réjouissance ? Ça ne vient pas facilement, hein ? On voit toujours ce qui ne va pas, c'est comme les informations. Hein. Et s'il y a un sujet de réjouissance, on dit, oula, méfions-nous. voilà. Dieu a besoin de réjouissance. Les sacrifices que tu peux apporter à Dieu ne sont rien à côté des merci que tu peux lui offrir. Dieu a besoin de cela. Et Dieu aussi a besoin que tu puisses déposer tout ce qu'il y a dans ton cœur, devant lui. Mais le plus grand besoin de Dieu, c'est que Dieu a besoin de ton cœur. Le Seigneur en a besoin.